Large page consacrée aux élections municipales. Ce soir, 81 listes seront en présence au second tour sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. La situation d'Aircale désormais critique. Sur les îles, un collectif citoyen appelle à manifester pour mettre fin au blocage des aérodromes. À bientôt, un nouveau cadre juridique pour les familles d'accueil. Le gouvernement a adopté un projet de loi du pays ce mercredi. Le rappel pour les airbags Takata défectueux se poursuit en Nouvelle-Calédonie. Plus de 12 000 véhicules sont encore concernés. Et puis du sport sur le territoire. Retour en fin de journal sur la soirée squash à la salle Picou. Deux internationaux ont fait le show, c'était hier soir. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une, les élections municipales. 81 listes de candidats ont été déposées pour le second tour qui se déroule dimanche dans 25 communes calédoniennes. Le commissariat en a publié la liste officielle en fin de matinée. Elisabeth Noir.
81 listes seront effectivement en présence sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie avec un record de 5 listes, dont 2 communes, Dimbéa et Koumac. À l'inverse, il n'y aura que 2 listes à Canala, à la fois à Puebo et à Poum. La nouveauté de ce second tour, c'est que des listes ont fusionné entre elles. On trouve ainsi 11 listes fusionnées. Il y en a même 2 à l'île des Pins et on retrouve une liste fusionnée à Canala, à Wailou, à Kouawa, à Ouégua, à Ouvéa, à Puebo, à Poum, à Thio et à Vaux. Pas de surprise en revanche dans Nouméa, dans l'agglomération, où toutes les listes qui ont dépassé la barre des 10% se maintiennent. À Nouméa, ce sera une triangulaire entre Sonia Lagarde, Virginie Ruffnac et Philippe Dunoyer. À Dimbéa, il y aura une quinquangulaire entre Cynthia Jean, Yoann Le Courrieux, Rachel Auché, Muriel Malfar et Vaïma Mouliava. Au Mont d'Or, c'est une triangulaire qui opposera les listes de Nina Julier, d'Elisabeth Rivière et de Tonia Waka du FLNKS. À Païta, enfin, ce sera une quadrangulaire entre les listes d'Antoine Romain, de Mila Koulotoukoumouli, de Nikita Aloïso du FLNKS et de Patrick Grépeau. Dans la province nord-aconnée, les 4 listes présentes au premier tour se maintiennent. Il n'y aura que 2 listes à Canala, où le maire sortant Gilbert Thuyénon fera face à la liste fusionnée de Caril Béronon. À Kouawa, ce sera une triangulaire, avec notamment la liste fusionnée conduite par Alcide Ponga. À Wailou, ce sera une quadrangulaire, avec notamment la liste du maire sortant Pascal Sawa et une liste fusionnée conduite par Angie Boé. À Pointe-d'Imier, les 4 listes se maintiennent sans changement. Dans la province des îles, enfin, il y aura 4 listes à Marais et on trouve l'ancien maire Pierre-Henri Gaillonni qui conduisait une liste au premier tour, qui est aujourd'hui en 7e position sur la liste UC, conduite par Jean Waéo. À OVA, il y a 3 listes, dont une liste fusionnée. Et on rappelle que le conseil municipal de Lifou a, lui, été élu dès le premier tour. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces 81 listes et de leur composition sur notre site internet.
25 communes de Nouvelle-Calédonie sont donc concernées par le second tour des élections municipales. 8 communes ont élu leur conseil dès le premier tour. Il s'agit de Bélep, Farino, Moindou et Saraméa qui ont moins de 1000 habitants, mais aussi Yengen, Touo, Yaté et Lifou. Les élections municipales encore et toujours avec cette prise de parole commune des 4 listes portées par l'UC-FLNKS dans le Grand Nouméa. Dans les 3 communes où elles ont franchi le cap des 10%, les listes se maintiendront pour le second tour du scrutin. Michael Juneski.
Une conférence de presse organisée aujourd'hui à Saint-Louis pour dresser le bilan global du premier tour du scrutin au niveau de l'agglomération concernant les listes donc soutenues par le FLNKS et déjà dans l'optique du second tour dimanche prochain. À Dimbéa, la liste conduite par Rachel Auché a recueilli 14,26% des suffrages. Au Mont d'Or, la liste emmenée par Tania Waka a obtenu 17,14% des voix. Et enfin, à Païta, la liste conduite par Nikita Gaya a recueilli 12,77% des voix. Liste sur laquelle on retrouve Laurie Oumouni.
Sur les communes de l'agglo, et notamment Dimbéa, Païta et Mont d'Or, c'est appelé déjà à l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés le 15 mars de les remercier, mais surtout de leur dire de réitérer en fait le travail, et notamment ce 22 mars. Mais c'est aussi appeler l'ensemble des abstentionnistes qui peut-être ne sont pas sûrs de pour qui ils vont voter. Nous, on les appelle de ne pas douter parce qu'on sait que ce sont nos électeurs. Ce sont des électeurs qui ont la conviction que l'indépendance du pays est proche. Et aujourd'hui, les municipales, elles sont nécessaires. Elles sont un enjeu politique essentiel pour que, justement, on puisse cheminer vers cet objectif. Et on appelle l'ensemble des abstentionnistes et notamment les jeunes à se mobiliser fortement pour pouvoir justement nous porter haut et fort à la mairie, aux différentes mairies, que ce soit Païta, Dambéa et Mondor.
La question de tout rapprochement ou toute alliance avec d'autres listes a été totalement écartée dans le Grand Nouméa par les listes du FLNKS, qui défend également son opposition à l'accord de Bougival-Élisée Oudinot dans ce scrutin et qui se revendique comme le représentant légitime des indépendantistes. Les listes conduites donc respectivement par Rachel Auchet à Dambéa, Tania Waka au Mondor et Nikita Gaya à Païta se maintiennent au second tour.
Aujourd'hui, notre objectif, il est clair. On ne veut pas faire des alliances de circonstances comme ce qui a pu se faire auparavant. L'objectif, c'est aujourd'hui d'être clair avec nos militants, avec notre base et avec ceux qui nous soutiennent. C'est aujourd'hui, nous sommes pour l'indépendance pleine et entière de notre pays. Et les municipales, elles sont une étape qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Sur Nouméa, notamment, c'est vrai que nous n'avons plus de représentants. Mais j'appelle l'ensemble des abstentionnistes à se mobiliser fortement et puis... à aller voter. C'est vrai que c'est pas évident d'aller peut-être contre ses convictions qui sont aujourd'hui l'indépendance pleine et entière. Mais aujourd'hui, il y a aussi des listes qui ont une vision un peu plus proche de nous, qui ne vont pas mettre en place des politiques publiques punitives, répressives et qui vont justement atteindre notre population.
Et j'ajoute que concernant la commune de Nouméa, la liste FLNKS Unité Pays, qui était conduite par Léséa Djouniop et qui a recueilli 9,52% des suffrages au premier tour, a de son côté appelé à voter blanc ou nul dimanche prochain.
Notez également que le MNIS a également dévoilé sa position aujourd'hui. À Nouméa, il appelle à soutenir la liste Philippe Dunoyer, Velma Falaé, Olivier Tupaco. À Païta, il appelle à soutenir la liste de Milakoulo Tukumuli, qui sera d'ailleurs notre invité dans quelques instants. À Dambéa, le MNIS appelle à soutenir la liste de Vaimoa Mouliava. Enfin, à Bouraille, le mouvement nationaliste, indépendantiste et souverainiste appelle à soutenir la liste de Patrick Roblin.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dambéa, c'est le 98.
Direction Dambéa, ce sont donc 5 listes qui seront en lice dimanche prochain pour le second tour des élections municipales. Jean-François Baudin.
Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est la liste dimanche dernier menée par Cynthia Jean qui est arrivée largement en tête avec 39,62% des voix. Elle a devancé la liste du maire sortant, Yoann Le Courrieux, qui a lui obtenu 18,98% des voix. Yoann Le Courrieux qui a lancé ce matin un appel aux abstentionnistes du premier tour.
Un appel clair aux abstentionnistes, la moitié quasiment... Les électeurs de la commune ne sont pas venus voter, donc j'appelle vraiment à tous les électeurs de Dambéa de prendre au sérieux ces élections municipales 2026 et donc de venir voter dimanche prochain, notamment dans l'objectif de défendre les intérêts de Dambéa uniquement.
Qu'est-ce que ça veut dire de prendre au sérieux une élection municipale ?
De ne pas se laisser manipuler par des arguments territoriaux, par des arguments de politique nationale ou autre. Certes, il y a eu un traumatisme en 2024 qui est important, mais il est important aussi de se reconstruire tous ensemble sur la commune de Dambéa.
Des propos recueillis par Lionel Sabot, Yoann Le Courrieux qui sera demain midi l'invité de notre journal de la mi-journée. 3 autres listes seront en lice dimanche pour le second tour à Dambéa. La liste UCFLNKS menée par Rachel Auchet, la liste menée par Vaimoa Mouliava que vous avez entendu dans notre édition de la mi-journée. La dernière liste en compétition pour le second tour des municipales à Dambéa est celle conduite par Muriel Malfar-Paoga. Elle est arrivée en 4e position lors du premier tour avec 13,52% des suffrages et elle a maintenu sa liste sans faire d'alliance.
Pourquoi pas d'alliance ? Tout simplement, c'est que si j'ai fait ma campagne au premier tour sans étiquette politique, sans parti politique, c'est pas pour au deuxième tour dire aux gens qui ont voté pour nous, vous savez quoi ? On va faire une alliance avec un parti. C'est pas possible. Donc moi, je reste toujours dans mes convictions. Je continue mon chemin. Je remercie tous les électeurs qui ont voté pour nous. Bon, on s'attendait à avoir un peu plus et j'espère qu'au deuxième tour, on aura justement ce qu'on attend comme électorat. Mais aujourd'hui, on continue notre ligne sans étiquette et puis sans parti politique. Effectivement, les 4 partis qui sont devant ont tous des partis politiques avec eux.
Aujourd'hui, votre but, c'est quoi ? C'est d'avoir le plus de conseillers possible au sein du conseil municipal ?
Non. Quand vous partez à une élection, Jean-François, vous partez pour gagner, que ce soit le premier ou le deuxième tour. Le peu de bureaux de vote que j'ai vu qui dépassent les 50% d'abstention, ça représente 7500 électeurs qui ne sont pas allés voter. Donc les 7500 électeurs qui ne sont pas allés voter, aujourd'hui, mon équipe, elle est sur le terrain pour essayer d'aller justement leur dire il faut aller voter et leur expliquer c'est quoi notre programme et pourquoi il faut voter passionnément Dambéa. Nous, on est sur le destin commun, on est sur le vivre ensemble, on est là pour les administrer et donc on continue le chemin jusqu'au bout, jusqu'au 22.
Qu'est-ce qui fait la différence entre votre programme et votre positionnement par rapport aux autres candidats qui sont toujours en lice ?
Mais comme au premier tour. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des machines politiques derrière. Donc le programme qu'ils ont, c'est le programme de leur machine politique, de leur parti politique. Nous, on est, je suis une femme de terrain, on est là pour les administrés, on est là pour le bien-être des administrés de Nambéa. Donc notre programme, je dirais qu'il est plus humain et il touche plus aux familles qui vivent au Nambéa et au quotidien des gens.
Il reste quelques jours de campagne. Vous allez à la rencontre des abstentionnistes. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez pour essayer de convaincre les électeurs de voter pour votre liste ?
Mais c'est aller faire du porte-à-porte. S'il y avait des débats, je n'irais pas, je vous le dis honnêtement. Aujourd'hui, c'est d'aller voir les gens et de leur expliquer que le vote est important, qu'il faut se déplacer pour aller voter parce que c'est leur avenir. Hein. C'est une personne qui met en place pour leur avenir, pour l'économie de la commune, pour les enfants, pour la jeunesse, pour le sport. Donc, il faut aller discuter et pas mettre des prospectus dans la boîte à lettres. Non, c'est aller taper à la porte et leur dire, voilà, notre programme, c'est ça. Il n'a pas changé, c'est toujours le même, c'est toujours le même bulletin. Mais vraiment avoir aucun regret sur ce deuxième tour vis-à-vis de la population. Ensuite, les résultats, écoutez, le meilleur gagnera.
Muriel Malfar-Paoga qui mène l'une des cinq listes que les Dumbéens devront départager dimanche prochain.
Et nous allons recevoir dans nos prochaines éditions plusieurs têtes de liste des communes de Nouméa et de l'agglomération pour faire le point avant le second tour de scrutin. Nous commençons cette série ce soir avec Milakulo Tukumuli qui conduit à Païta la liste Un Nouveau Souffle. Il est interrogé ce soir par Elisabeth Noir.
Milakulo Tukumuli, bonsoir.
Bonsoir Elisabeth.
Merci
d'accepter. Bonsoir aux auditeurs de RRB qui nous écoutent ce soir.
Et ils sont nombreux. Merci d'accepter votre invitation. Vous conduisez la liste Un Nouveau Souffle pour Païta. Vous aurez face à vous trois autres listes. La liste Païta J'y crois, conduite par Antoine Romain, la liste FLNKS de Nikita Aloiso et la liste Esprit Païta de Patrick Grépeau. Vous avez reconduit votre liste à l'identique. Est-ce que vous avez essayé, est-ce que vous avez été tenté de fusionner avec quelqu'un d'autre ?
Bon, d'abord, permettez-moi de corriger. Le nom de la liste, c'est Païta, un nouveau souffle.
Et non pas un nouveau souffle pour Païta.
Non.
Pardon.
Païta, un nouveau souffle. Permettez-moi d'abord, Elisabeth, de d'abord remercier chaleureusement les 2427 personnes qui ont porté leur confiance sur notre liste. Je voudrais le dire de manière sincère et les en remercier profondément. En espérant qu'ils retournent ce dimanche 22 mars confirmer leur vote. La question que vous me posez, Elisabeth, c'est est-ce qu'on a essayé de faire des alliances ? Absolument pas, même si je comprends que certains de nos concurrents ont essayé de faire des alliances. Nous, on a décidé de faire alliance depuis le début avec le peuple et on continuera de le faire jusqu'à dimanche.
C'est quoi la composition de votre liste ? On reproche souvent, ou on dit souvent de votre parti, et vous le savez que c'est un parti communautaire. Est-ce que c'est une liste de l'éveil océanien ? Est-ce que c'est une liste communautaire ? Ou est-ce que c'est une liste ouverte à d'autres composantes ?
C'est quand même incroyable, c'est que les autres collent des étiquettes, et puis c'est sur lui qui a l'étiquette de se défendre, de l'étiquette qu'on lui a collée dessus.
Pas se défendre, c'est de répondre, d'expliquer.
Je vais le refaire une énième fois sous votre entraîne, Elisabeth. Je vous remercie d'ailleurs pour l'invitation. C'est pas une liste de l'éveil océanien, qu'on soit bien clair, c'est une liste d'ouverture. Je le rappelle, dans notre liste, il y a des gens du Rassemblement, de l'Union calédonienne, du PALICA, de la société civile, des présidents d'associations. Chacun a décidé d'enlever son étiquette, de la laisser de côté, parce que quand on s'engage pour l'élection municipale, on parle de politique publique de proximité. Laissons la politique aux grandes arènes que sont la province et le Congrès. Donc je réitère, je vous le dis de manière ferme et déterminée, Païta, un nouveau souffle, c'est une liste citoyenne, c'est pas une liste de l'éveil océanien.
La réponse est claire. Politique de proximité, oui, campagne de proximité. Est-ce que les questions d'avenir institutionnel ne sont pas quand même sous-jacentes dans cette campagne ?
Écoutez, moi j'ai traversé Païta depuis un mois et demi. À aucun moment, dans aucune de nos réunions, un seul instant, un citoyen ne nous a posé la question. Maintenant, moi, je comprends que certains, peut-être par pauvreté intellectuelle, se disent « Vous pouvez faire campagne sur le oui et le non, sur Bougival, parce que c'est plus facile d'appuyer sur les boutons de la peur que d'avoir un programme bien bâti sur les craintes et les espoirs des citoyens de la ville de Païta en termes de sécurité, en termes de cantine, en termes de transport scolaire, en termes de route. Donc nous, on a bâti un programme sérieux sur ces sujets-là que nous avons présenté. Nous avons présenté aussi même un plan des 100 jours. Et donc le programme n'a pas changé et nous continuons d'avancer sur ce terrain jusqu'à dimanche.
Au premier tour, vous êtes arrivé en deuxième position, vous le disiez, avec 2427 voix, soit 26,42%, derrière la liste Antoine Romain qui a obtenu 2802 voix, soit 30,50%. Est-ce que vous avez été déçu du résultat? Est-ce que vous attendiez à mieux? Et quelle analyse vous faites du résultat du premier tour?
Non, on est très heureux des résultats et c'est pour ça que j'ai remercié l'ensemble des personnes qui nous ont fait confiance. Maintenant, ce qu'on fait depuis dimanche et jusqu'à ce dimanche 22, la stratégie, là, c'est simple. D'abord, il y a trois listes qui ne sont pas passées. Il y a celle de Sylvia Abel, c'est 800 voix, celle de Justin Gaillard, 400 voix, et celle de Christopher Borgine, 600 voix. Si vous faites le total, ça fait 1800 voix. Donc il y a 8800 citoyens à Païta qui se sont déplacés le premier tour et qui, je l'espère, vont se redéplacer ce dimanche 22. Si on fait une liste pour l'élection municipale, c'est qu'on conteste le pouvoir en place, et qui est en place depuis plus de 30 ans. Donc je suppose, moi je comprends que ces personnes-là souhaitent le changement.
Il y a du renouvellement quand même, c'est pas les mêmes depuis 30 ans.
C'est la même pensée politique, permettez-moi de le dire. Et donc ces 1800 personnes, s'ils vont revoter, j'espère qu'elles voteront pour le changement, parce que sinon ce serait incompréhensible d'avoir fait une liste pour le changement et de reporter ses voix sur le pouvoir en place. La deuxième chose, c'est le nombre d'abstentionnistes qui est très très élevé. Je crois qu'à Païta, on est en dessous de la moyenne calédonienne.
54-74% à Païta.
C'est ça, ce qui fait...
pour la participation.
Pour la participation, 7800 électeurs et électrices qui ne se sont pas déplacés. Alors, le travail qu'on mène depuis dimanche soir, parce que... pas attendu lundi pour le faire, c'est d'aller à la rencontre de ces 7800 abstentionnistes, on n'est pas les seuls, et d'aller les sensibiliser sur l'élection qui se déroulera ce dimanche, et sur l'importance de s'exprimer.
Alors les uns et les autres, aujourd'hui, ceux notamment qui ne peuvent pas se présenter, font part de leur consigne des votes. On a vu que le MNIS vous soutient, vous accueillez ce soutien avec plaisir ou... Où vous en seriez passé?
Comment... Nous, on accueille tous les soutiens possibles sur notre liste. Je rappelle que nous, on défend un programme et une équipe, et rien d'autre.
Est-ce que ce programme, vous l'avez changé, adapté dans la perspective du second tour pour justement attirer plus de gens, ceux qui n'ont pas voté pour vous au premier tour? Ou est-ce que c'est le même programme?
C'est le même programme parce que c'est un programme qu'on a bâti de longue date et puis qu'on l'a amélioré au fur et à mesure de ce mois et demi de campagne. Parce que ça a été bâti par les citoyens de Païta, pour les citoyens de Païta. Et lors de nos réunions, il y a plein de citoyens qui nous ont dit « Dans votre plan des 100 jours, on aimerait bien ajouter telle ou telle action. » C'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé avec 20 actions, engagements à réaliser dans les 100 jours. Et on est arrivé à la fin de notre parcours de campagne avec 30 actions à réaliser dans le plan des 100 jours. Donc, c'est pour dire que c'est un plan qui n'est pas fermé, qui est évolutif et qui prend en considération la volonté des citoyens que nous avons rencontrés pendant ces 45 jours.
L'axe principal, les axes principaux de ce programme, de ces 100 jours,
l'axe principal, c'est ce que j'ai dit ici
c'est
sur
le changement.
L'antenne. Non, l'axe principal, d'abord, c'est la confiance. Parce que la confiance, c'est la base de toute relation entre l'équipe dirigeante et les citoyens de la commune. Or, la confiance... C'est ce qui a été sapé pendant ces dernières années, a fortiori quand les maires qui ont exercé ont été condamnés par la justice de la République française pour rachat de voix. Donc on voit qu'il y a un désintérêt, il y a une rupture de confiance entre les citoyens. Donc une fois qu'on a restauré la confiance, on propose trois actions. On décline les thématiques qui sont les thématiques usuelles d'un conseil municipal, même si on s'est autorisé à aller chercher dans un périmètre de compétences qui n'est pas celui des communes, en termes d'emploi et d'économie d'emploi, et aussi sur la santé, parce que ce sont des doléances qui reviennent assez souvent lorsqu'on rencontre les citoyens de la ville de Païta.
La confiance a été rompue, celui de vos adversaires que vous épinglez, il est quand même arrivé en tête et devant vous, donc... Il y a encore de la confiance, manifestement, pour sa liste.
C'est un électorat, parce qu'on voit bien le jeu qui est fait aujourd'hui par les centrales politiques. C'est un électorat qui est stable et qui ne bouge pas. J'appelle qu'Antoine Romain est sous la bannière des loyalistes. On voit bien que sur les FLNKS aussi, leur électorat est stable. Nous, on a été chercher autre chose que l'électorat des centrales politiques. On a été chercher les citoyens de la ville de Païta.
Alors l'éveil océanien plus largement a été un peu malmené lors de ce premier tour. Hein, Dimbéa, Vaïma Mouliava franchit de justesse la barre des 10%. Au Mondor, Petit Lesso est éliminé. Anouméa avec Calédonie Ensemble, la liste où figure Velma Falayo ne fait que 11%. Est-ce que c'est une contre-performance et comment vous expliquez ces scores qui ne sont pas très bons?
On dit
généralement que c'est vous qui avez sauvé la face de l'éveil océanien.
Ce n'est pas l'analyse que nous avons fait. Je rappelle qu'en 2019, l'éveil océanien est arrivé dans le paysage politique. En 2020, on est allé au municipal, on a fait 8000 voix. En 2020, on était sur les 4 communes de l'agglo. Aujourd'hui, on en fait encore 8000 voix, Elisabeth. Pas forcément les mêmes dans toutes les communes.
Mais l'électorat a augmenté entre les deux élections.
En nombre de voix, l'électorat a augmenté. Si on compte les communes sur lesquelles nous on s'y retrouve, je rappelle que Tcho aussi, c'est une commune sur laquelle on a décidé de poser une liste. À la fois, on est aussi groupé aussi avec l'équipe de Calédonie Ensemble sur la foi. Je rappelle qu'on soutient aussi la liste de Bourail. Donc, en termes de voix, je ne partage pas votre analyse. Je considère que l'électorat est plutôt stable. Et puis, il faut comparer ce qui est comparable. Parce que le nombre de listes qu'il y avait en 2020 et aujourd'hui, ne sont pas les mêmes. Donc, il y a une pluralité des listes, que ce soit à Païta ou Dimbéa, qui fait que l'électorat est dispersé. Mais c'est comme ça au premier tour. Moi, je pense qu'il faut attendre le second tour, Elisabeth, pour tirer une analyse fine. Je pense qu'il est trop tôt pour dégainer son épée et pour dire qui est mort ou qui est encore vivant.
Votre objectif pour le second tour, rapidement?
Gagner.
Et vous avez des réunions publiques encore ou des réunions de terrain essentiellement d'ici dimanche?
On fait ce qu'il y a à faire d'ici dimanche, des réunions, d'aller tracter sur le terrain, comme au bon vieux temps. On va à la rencontre des personnes et des citoyens vivant sur Païta. Mais je dois dire que je fais face aujourd'hui à une campagne de caniveau de la part de mes opposants, certainement qu'ils pensent être en grand danger, et donc ils utilisent tous les moyens pour me décrédibiliser, afin de décrédibiliser la liste. Mais le peuple décidera dimanche.
Merci en tout cas, Mila Kolotokoumouli, d'avoir accepté notre invitation ce soir.
Merci Elisabeth.
Merci Elisabeth Noir pour cette interview qui, je le rappelle, sera disponible dans quelques minutes en podcast sur notre site internet. Et notez d'ores et déjà que demain à 7h30, notre invité du matin sera Antoine Romain qui conduit la liste Païta, j'y crois.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier. D'abord, 73% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS estiment que les listes qui ont franchi de justesse le premier tour des municipales ne doivent pas se désister pour faciliter l'union au second tour. Ils sont 27% à être d'un avis contraire. Notre question du jour à présent, après 15 jours de blocage des aérodromes des îles, Aircal a mis la moitié de son personnel au chômage partiel et elle envisage le redressement judiciaire. Pensez-vous que la compagnie va pouvoir se remettre de cette nouvelle crise? Si vous pensez qu'Aircal va pouvoir se redresser, vous tapez 1. Si vous pensez que c'est la fin de la compagnie domestique, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. La situation d'Aircal, on en parle juste après la pause.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
On-off, c'est important. Une multiprise avec interrupteur, c'est pratique. D'un seul geste, vous coupez le courant de plusieurs appareils. C'est simple et économique. Toutes nos astuces sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Info soir, Léo Fichou.
Je le disais avant la pause, la situation d'Air Calédonie désormais critique. Le blocage des liaisons avec les îles Loyauté et l'île des Pins est toujours maintenu. C'est désormais le devenir de la compagnie aérienne domestique qui interroge avec une menace sur plusieurs centaines d'emplois. Michael Juneski.
La desserte des îles totalement suspendue depuis que le déménagement des appareils d'Aircal à la Tontouta est devenu effectif. Les avions de la flotte orange et blanche n'ont plus revu le tarmac de Wanham, La Roche, Ouloup et Moué. La santé financière de la compagnie était déjà fragile. Désormais, les salariés sont inquiets pour leur avenir et regrettent d'être dans le flou total. Écoutez Christophe Coulson, le président de l'UTCFE-CGC, l'un des syndicats présents au sein de la compagnie.
J'ai envie de dire aux uns et aux autres qu'il y a eu assez de pertes d'emplois en Nouvelle-Calédonie. Ce serait vraiment dommage d'en rajouter encore entre 300 et 400. Tout le monde a besoin de travailler sur ce territoire. Là, à l'heure où on parle, les salariés n'ont pas grand-chose comme information sur le devenir de leur compagnie. Donc je peux vous dire qu'ils ont baissé les bras et ils sont assez découragés de la situation. Ce que l'on savait il y a à peu près 3 semaines, c'est que la compagnie pouvait tenir 1 mois à compter du premier jour des blocages. Là, nous en sommes à 3 semaines. Elle a déjà passé une vitesse supérieure, effectivement en mettant une partie des salariés en chômage technique. Je ne pense pas que ça va durer très très longtemps. Ce n'est qu'une histoire de jours, voire de semaines.
On rappelle par ailleurs qu'au moment où le trafic aérien domestique n'est plus assuré, le Betizo est lui aussi à l'arrêt pour des réparations, au moins jusqu'à la fin du mois. Face à une situation qui perdure et qui engendre de nombreux problèmes pour les populations des îles, de nouvelles mobilisations sont annoncées, comme par exemple à Lifou. Cette fois, c'est un collectif citoyen qui manifestera vendredi prochain pour demander à ce qu'une solution soit trouvée afin de mettre fin au blocage. Antoine Signaud est l'un des membres de ce collectif.
Ce qu'il faut dire, c'est que le dossier Hercal, c'est un dossier qui date quand même de plusieurs années, 2019-2020. Ce qu'il y a, c'est que en ce moment, ça devient de plus en plus difficile. Et au milieu, on a quand même une population qui est en train de souffrir. N'en parlons pas de la situation sanitaire, de la situation sociale, le développement économique au niveau des hôtels, des loueurs de voitures, au niveau du commerce. Et n'en parlons pas non plus du tourisme, les paquebots de croisière qui font un peu la fierté de nos populations, surtout sur Diéro. On est impacté parce que on est quand même une population qui est au milieu et qui est en train de subir. On organise des actions pour alerter l'opinion publique, mais c'est aussi pour alerter les institutions, mais aussi discuter avec le collectif pour dire que ce n'est pas en bloquant les avions qu'on va trouver la réponse.
Antoine Signoué, l'un des porte-parole de ce collectif citoyen, mobilisation qui se déroulera donc vendredi à Lifou, en face de la mairie de Houé, à partir de 9h.
Bientôt, un nouveau cadre juridique pour les familles d'accueil. Le gouvernement s'est réuni comme chaque mercredi en séance plénière. Il a adopté aujourd'hui un projet de loi du pays visant à mieux réglementer l'activité des assistants familiaux. Charlotte Coulson.
On parle ici des personnes qui accueillent à leur domicile des jeunes placés, donc des familles d'accueil. Actuellement, aucun texte n'encadre leurs conditions de travail, ce qui crée des inégalités de rémunération ou de conditions d'exercice. Avec ce projet de loi du pays, le gouvernement souhaite établir certaines règles, comme un nombre maximum de 3 mineurs accueillis en même temps, ou bien une formation obligatoire pour les assistants familiaux.
Et lors de cette séance hebdomadaire, le gouvernement a aussi arrêté une délibération du Congrès. Elle concerne, Charlotte, le recrutement et la formation initiale des enseignants du premier degré.
Depuis le transfert de compétences de l'État à la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement est censé en avoir la charge, mais des dispositions transitoires ont été mises en place. Le vice-rectorat continuait donc de délivrer certains diplômes. La période de transition touche à sa fin. Le gouvernement reprend l'organisation du certificat d'aptitude au professorat des écoles. Le diplôme professionnel d'instituteur est supprimé. Les parcours de formation et de titularisation des instituteurs et professeurs des écoles s'alignent avec un concours organisé là encore par la Nouvelle-Calédonie.
L'actualité judiciaire, 15 ans de réclusion criminelle pour l'accusé principal dans l'affaire de meurtre jugé aux assises depuis lundi, Léana Colombo.
Oui, il comparaissait pour avoir, le 27 mars 2023, poussé la victime du 5e étage des tours de Saint-Quentin à présent différent. Le parquet avait requis 12 ans de réclusion criminelle et 3 ans de suivi socio-judiciaire. 2 autres individus présents lors de l'accident étaient également jugés. Ils ont été condamnés à 3 ans d'emprisonnement sans mandat de dépôt. Le ministère public avait requis 3 ans de prison avec sursis probatoire de 2 ans. Une nouvelle affaire sera jugée dès demain. Il s'agira d'une affaire de mœurs. L'accusé comparaîtra pour viol commis sous la menace d'une arme le 30 mai 2023. Après avoir repéré sa victime à la sortie d'un magasin au Vallon d'Or, l'accusé l'a suivi à son domicile pour repérer les lieux. Il est alors revenu dans le courant de la nuit et a violé sa victime sous la menace d'un couteau. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle.
Où en est-on du dossier des airbags Takata défectueux ? Malgré une vaste campagne de rappel menée ces dernières années, près de 12 000 véhicules restent encore concernés sur le territoire. Une situation qui inquiète les professionnels du secteur, concessionnaires comme experts. Il lance un nouvel appel, Léana. Faites vérifier votre véhicule sans attendre.
Dans le monde, près de 100 millions de véhicules sont concernés par ce défaut. En Nouvelle-Calédonie, ils étaient environ 20 000 au lancement de la campagne de rappel. Aujourd'hui, selon les experts du secteur automobile, près d'un airbag défectué sur deux a été remplacé. Mais le travail est loin d'être terminé. Il reste encore de nombreux véhicules difficiles à localiser alors que le danger est bien réel. Pour rappel, à cause d'un gaz qui se dégrade avec le temps, l'humidité et la chaleur, ces airbags d'origine japonaise risquent d'exploser avec un risque de blessures graves, voire mortelles pour les conducteurs et les passagers avant, d'où cet appel à la vigilance. Plusieurs démarches entièrement gratuites sont possibles pour savoir si vous possédez un véhicule concerné, tel que des numéros verts ou une liste des modèles défectueux sur le site argus.nc, et d'autres devraient être mis en place prochainement. Laurent Jandot, président de l'Association des concessionnaires automobiles de Nouvelle-Calédonie.
Face à la difficulté donc de trouver ces gens qui circulent encore avec des véhicules potentiellement dangereux, nous allons tenter de mettre en place plusieurs mesures. Je pense notamment au contrôle technique qui pourrait faire l'objet d'un contrôle préalable de manière à identifier le véhicule et ensuite n'accorder le contrôle technique nécessaire que lorsque leur bague aura été changée. Je pense également au transfert de carte grise. Nous sommes en discussion avec la DI3T de manière à ce que, là encore, il y ait une procédure de vérification avant le transfert de carte grise. Ce sont des méthodes un peu contraignantes, mais aujourd'hui, face à la difficulté à trouver ces gens, on est obligé de mettre des méthodes contraignantes en œuvre. On pourrait arriver éventuellement jusqu'à ce qu'on appelle les stop drive, c'est-à-dire que les pouvoirs publics interdisent aux gens de rouler avec leurs véhicules qui sont potentiellement dangereux.
Dans le monde, une cinquantaine de personnes sont décédées des suites de l'explosion d'un airbag défectueux, dont deux en Nouvelle-Calédonie, à Marée en octobre 2025 et à Kone fin décembre 2025.
Renforcer les liens économiques avec la Polynésie. Après la visite du président du gouvernement Alcide Ponga à Tahiti en novembre dernier, une délégation calédonienne s'est rendue en Polynésie du 27 février au 5 mars. Il s'agissait de voir dans quel secteur et sur quel sujet des coopérations concrètes peuvent se mettre en place. Ce sera le sujet demain des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Jean-François Baudin recevra Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie notamment, Christopher Laureau de la CCI, Alexandre Reversé de la Chambre d'agriculture et de la pêche et Antoine Depalmas du cluster NCT-NI. 18h17, seconde pause dans ce journal, on parlera sport juste après.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal, le sport avec Léo Fichou.
Le sport côté calédonien, bien évidemment, avec un mot de voile. D'abord, Vincent Trinquier et Alan Kiré se sont illustrés en Nouvelle-Zélande sur la Round North Island. Après 1200 milles nautiques, le duo calédonien a franchi la ligne d'arrivée à la deuxième place en Division 2. Une belle revanche après leur abandon forcé. C'était lors de la dernière Groupama Race en Nouvelle-Calédonie. En athlétisme, un calédonien est devenu ces derniers jours champion d'Australie de pentathlon. C'est de l'athlétisme, donc Jérôme Troya, président du club Trakensee et de la Ligue calédonienne d'athlétisme, a inscrit une nouvelle ligne à son palmarès, un palmarès déjà bien rempli avec des titres nationaux et internationaux. Prochain objectif pour lui, les championnats de Nouvelle-Zélande, ce sera en janvier 2027. On termine sur le territoire avec du squash. La salle Picou à Sainte-Marie accueille hier soir un match de gala. C'était une exhibition entre deux squasheurs professionnels français bloqués dans le Pacifique, invités par la Ligue calédonienne de squash. D'un côté, Melville Sianimaniko, 21 ans, 33e mondial. De l'autre, Auguste Dussourd, 30 ans et 37e mondial. Un spectacle apprécié par les nombreux Calédoniens présents. Ils étaient plus d'une centaine. Les pros, eux, ont passé une excellente semaine de pause à la Calédonienne.
Auguste, tu sors ?
À chaque fois, c'est toujours un plaisir. On est bien accueillis, on mange bien. C'est toujours un kiff, franchement. J'ai plein d'amis ici, donc à chaque fois de les revoir cette année, c'était top. On a essayé de partager au maximum avec tous ceux qu'on pouvait, tous ceux qui étaient présents. Et oui, c'était super sympa.
Melvin
Scanimanico. On a pu partager un peu notre expérience avec les jeunes ici. Moi, comme c'était la première fois, ça me fait plaisir de voir de nouvelles têtes et surtout de nouvelles pépites. Malheureusement, on n'a pas eu une très très bonne météo, mais ouais, forcément, c'est difficile de ne pas aimer quand on vient ici et qu'on est entouré de gens gentils comme ça qui sont bienveillants avec nous.
Et après un match spectaculaire d'1h10 devant plus d'une centaine de Calédoniens, je le disais, c'est Auguste Dussourd qui s'est imposé 3-1. Un dernier moment de partage avant que les joueurs professionnels ne quittent le territoire, c'était cet après-midi. On termine ce journal avec la météo.
Socafort Peinture vous présente la météo. Socafort Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, l'Unicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socafort Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous Pierre.
Cette nuit, des bandes de nuages aborderont l'extrême sud et l'île des Pins où ils déposeront encore quelques averses. D'autres nuages accompagnés d'averses circuleront sur le nord-est et la pointe nord. Ailleurs, le ciel restera souvent bien étoilé. Le vent de sud-est faiblira progressivement, soufflant entre 10 et 15 nœuds sur la côte est et autour de 15 nœuds sur l'ouest. Les températures minimales quant à elles resteront stables, comprises entre 21 et 24 degrés avec des valeurs un petit peu plus fraîches de 18 à 20 degrés sur l'ouest et à Marais. Demain matin, le soleil dominera le plus souvent sur l'ensemble du territoire. Quelques averses concerneront encore la pointe sud et les Loyautés, tandis qu'en fin de matinée, des nuages commenceront à se développer sur la chaîne. L'alizé de sud-est poursuivra son affaiblissement tout en se maintenant entre 10 et 15 nœuds. Côté mer, la marée sera haute à 20h, puis basse à 2h, avant de remonter demain matin pour une nouvelle pleine mer à 8h30. Les niveaux évolueront dans l'ordre de 1,46 m, 37 cm et puis 1,64 m. Et côté ciel, la lune descendante n'offrira presque plus de lumière, avec à peine 0,41% de clair de lune, une présence infime, presque effacée comme un souffle discret laissé au bord de la nuit.